Le journal de Thomas Nagy.
Bonsoir. L'avenir du laboratoire du Montéry inquiète au Parlement jurassien. La Confédération envisage de se retirer pour des raisons budgétaires, ce qui suscite des craintes pour ce site de renommée internationale. Le gouvernement assure qu'il fera tout pour préserver cette infrastructure scientifique unique. Le collectif jurassien pour la paix à Gaza dépose une dénonciation pénale contre 4 conseillers fédéraux. Il les accuse de complicité de crimes internationaux en lien avec le conflit à Gaza. La dénonciation a été déposée hier auprès du ministère public de la Confédération. Le Petit du Gros dévoile sa programmation. Le festival de musique situé dans l'enceinte du Champ du Gros résonnera également du 11 au 13 septembre prochain. La scène est toujours dédiée au groupe suisse. Le risque d'averse va aller grandissant au fil des heures ce soir et les averses se généraliseront durant la nuit et demain matin. Les températures demain seront fraîches pour la saison, elles ne dépasseront pas les 15 degrés. Les inquiétudes sur l'avenir du laboratoire du Montéry rejaillissent devant le Parlement jurassien. Suisse-Topo confiait il y a 2 semaines réfléchir à se désengager de l'exploitation du laboratoire souterrain situé au-dessus de Saint-Ursanne par souci d'économie. Le député UDC Alain Colère s'est inquiété lors des questions orales de cette possible perte pour le canton d'un site reconnu à l'international. Le ministre de l'Environnement David Herret a assuré que le gouvernement mettait tout en œuvre pour sauver le laboratoire du Montéry.
Pas plus tard que hier, le gouvernement a validé la mise en œuvre d'un groupe de suivi pour finalement mettre en œuvre tout ce qui est possible pour maintenir l'engagement de la Confédération dans le laboratoire. Et nous partageons vos préoccupations parce que le laboratoire, c'est bien évidemment un centre de recherche au niveau de l'enfouissage des déchets nucléaires. C'est également un centre de recherche pour le stockage en couche profonde de CO2. Ce sont également des emplois fédéraux dans le Jura. C'est également de la recherche internationale finalement utile à toute la société, à toute la planète pour sécuriser l'entreposage des déchets et donc la sécurité des générations futures. D'autant plus qu'au niveau de la Confédération, la volonté semble être de relancer le nucléaire, donc de régénérer plus de déchets que prévu. Donc il faudra continuer à faire des recherches pour ce domaine d'activité. Le Conseil national a également souhaité intensifier la recherche dans l'enfouissage de CO2 en couche profonde, ce que fait le labo du Montéry à Saint-Ursanne. Donc vraiment une décision qui va à contresens de la politique menée actuellement au niveau de la Confédération. Et le gouvernement mettra tout en œuvre pour pérenniser, voire même développer le laboratoire du Montéry.
Le Parlement jurassien fait un pas de plus dans l'accueil de Moutier du côté de la justice. Cette fois-ci, il a accepté cet après-midi en première lecture la modification de la loi sur les établissements de détention à l'unanimité. Il a également validé sans opposition la modification de la loi d'organisation judiciaire. Dans les faits, le premier texte avait pour objectif d'intégrer Moutier dans le dispositif carcéral et de retirer la prison de Porrentruy des articles. Le second texte vise à adapter les effectifs des magistrats. Au total, 2,2 EPT supplémentaires seront créés pour un coût total estimé à 460 000 francs. Des postes nécessaires selon la ministre de l'Intérieur, Nathalie Barthoulot.
Il y a une analyse qui a été faite au niveau de la criminalité en ville de Moutier et les instances judiciaires ont déterminé les besoins supplémentaires par rapport à l'arrivée de Moutier et aujourd'hui c'est ce que nous avons effectivement décidé. Moutier, c'est une ville qui correspond à Porrentruy, à Deux-Lémont à peu près, donc il y a un taux de criminalité, c'est affreux de dire ça mais c'est quand même le terme scientifique qui est retenu, qui a été pris en compte et compte tenu de celui-ci bien, il y a une évaluation des besoins supplémentaires qui a été faite.
La surcharge dans la justice, ça pourra être traité ultérieurement, ça reste un problème.
La surcharge dans la justice reste effectivement un problème. On sait aussi que parfois il y a des pics, des vagues d'affaires à traiter, des dossiers complexes et on essaie quand même toujours de rester très attentif aux besoins de la justice et puis que cette dernière puisse mener son action de manière aussi sereine que possible avec les moyens qui sont les siens.
L'argent de la BNS ne servira pas à rehausser le budget 2025 de l'État jurassien. Le Parlement a refusé aujourd'hui une motion du député CS Pop Rémi Meury qui demandait à revaloriser certaines allocations budgétaires décidées en décembre dernier, notamment accorder le plein renchérissement aux fonctionnaires. Les débats sur le budget avaient été empreints d'un souci de réaliser des économies avant que le Jura ne se voie verser 3 parts de la BNS qui n'était pas escomptée. Les députés ont cependant refusé de modifier un budget en cours d'exercice. L'étude de l'initiative pour un fonds climat a semé la pagaille aujourd'hui devant le Parlement jurassien. Les députés étaient appelés à voter la validité matérielle de l'initiative qui avait fait l'objet d'une analyse précise par la commission de la justice. Toutes les conditions avaient été analysées et jugées réalisées jusqu'à la surprise du chef, la montée du député PLR Alain Schweingruber, avocat de profession à la tribune. Son intervention a mis tout le monde dans l'embarras, Jérémy Pignard.
On a effectivement étudié toutes les conditions qui sont remplies, sauf une, assène soudainement le député et membre de la commission de la justice. J'y pense à l'instant, dit-il, le délai. Nous sommes hors délai pour nous prononcer. La loi sur les droits politiques prévoit 6 mois après le dépôt de l'initiative. Elle a été déposée il y a près d'un an. La salerie jaune, la ministre Nathalie Bartoulot est décontenancée. Personne ne sait quoi faire. Dans la confusion, on évoque un report du dossier et on demande alors une interruption de séance. Branle-bas de combat, tout le monde discute. Tu n'aurais pas pu me le dire ce matin, souffle désorienté la ministre Alain Schweingruber. Faut bien qu'on s'amuse un peu, lance avec un sourire gêné mais amusé le député à quelques collègues. En aparté, la ministre utilise, comme elle le dit si bien, son joker, coup de fil à un ami et s'empresse d'appeler le service juridique du canton. Suspense. Elle revient devant les députés, tout sourire et soulagé pour dire que le délai n'est donné par la loi qu'à titre indicatif et qu'on peut se prononcer au-delà. La présidente de la commission de la justice, Amélie Braillet, retire alors soulagée aussi sa motion d'ordre qui demandait un report du dossier. La validité matérielle de l'initiative Fonds Climat est finalement largement acceptée par 49 voix contre 8. Mais franchement, qu'on se le dise, on a bien failli la perdre.
Merci Jérémy. Le collectif jurassien pour la paix à Gaza vise 4 conseillers fédéraux. L'organisme présidé par l'ancien député CS Pop Pierluigi Fedele a déposé hier une dénonciation pénale au ministère public de la Confédération contre 3 membres en fonction du Conseil fédéral et une qui ne l'est plus. Il l'a annoncé aujourd'hui dans un communiqué. La démarche concerne Ignacio Cassis, Karine Keller-Sutter, Guy Parmelin et Viola Amert. Le collectif jurassien les accuse de complicité de crimes contre l'humanité, crimes de guerre et éventuellement crimes de génocide alors qu'Israël a intensifié récemment ses opérations sur la bande de Gaza. Davantage de précisions avec François Comte.
Les liens commerciaux et militaires, notamment entre la Suisse et Israël, figurent en toile de fond de la dénonciation pénale du collectif jurassien pour la paix à Gaza. L'organisme entend ainsi dénoncer les décisions, les manquements, les absences de décision ou encore les actes commis par omission qui pourraient être attribués aux 4 conseillers fédéraux. La dénonciation pénale saisit donc le ministère public de la Confédération pour qu'il investigue en ce sens. Elle s'appuie sur divers textes juridiques de la Cour internationale de justice ou encore sur les fonctions de la Suisse en tant que dépositaire des conventions de Genève. Le collectif jurassien pour la paix à Gaza précise que d'autres procédures juridiques de ce type pourraient être initiées prochainement contre des dirigeants de pays occidentaux en collaboration avec d'autres collectifs ou personnalités en Suisse ou à l'étranger.
L'activité démocratique reprendra ses droits le 28 septembre prochain. Elle avait été mise en veilleuse durant le premier semestre de cette année avec un seul objet soumis au peuple en février. Le Conseil fédéral a décidé aujourd'hui de soumettre 2 référendums au corps électoral. L'un combat le projet d'identité électronique, l'autre est obligatoire car il faut modifier la Constitution sur une question fiscale. Faut-il, oui ou non, supprimer la valeur locative ? À Berne, les explications de notre correspondant Serge Jubin.
Après de longs débats, le Parlement a décidé de supprimer la fiscalisation de la valeur locative des logements en résidence principale et en résidence secondaire. En contrepartie, les propriétaires ne pourront plus que partiellement déduire les intérêts hypothécaires et les frais d'entretien et de rénovation. Le Parlement a tenu compte du fait que la valeur locative des résidences secondaires génère d'importantes recettes pour les cantons touristiques. Un impôt spécial sur les résidences secondaires à usage personnel est ainsi prévu, libre au canton de le prélever ou non. Pour cela, la Constitution doit être adapté, un référendum obligatoire est nécessaire, il faudra alors la majorité du peuple et des cantons pour adopter la loi. L'autre objet soumis au vote le 28 septembre n'a besoin que de la majorité populaire. Près de 4 ans après avoir renvoyé le projet d'identité électronique à l'expéditeur, le peuple est face à une nouvelle loi sur l'EID qui corrige le principal défaut de la première mouture. C'est la Confédération qui gérera les données et pas une entreprise privée. Un comité référendaire détonnant avec les mouvements Masse Folle, les Amis de la Constitution et le Parti Pirate a trouvé un peu plus de 50 000 signatures pour contester le projet, mais ces mouvements référendaires ne s'entendent pas entre eux, le peuple tranchera. L'activité démocratique va aller crescendo à partir de novembre. 13 initiatives populaires sont sur la table du Parlement et iront ensuite devant les citoyens.
Le Petit du Gros est paré pour sa 13e édition. Le festival de musique situé dans l'enceinte du Champ du Gros a présenté cet après-midi sa programmation éclectique aux sonorités électro, rock, rap, reggae ou encore pop. 18 artistes suisses se produiront sous le traditionnel chapiteau du 11 au 13 septembre au Noirmont. Parmi eux, 7 viennent des cantons du Jura et de Neuchâtel, alors que 2 ont été dénichés en Suisse alémanique du côté de Zurich et d'Argovie. Un élargissement du périmètre désiré par le festival du Petit du Gros. On écoute son coprésident Quentin Arnoux.
On a voulu ouvrir un petit peu la programmation à des artistes de l'autre côté de la Sarine ou du Röstigraben, comme on dit souvent. Il y a énormément de talent en Suisse et il y a énormément de talent de ce côté-là du pays aussi. Et puis on a une équipe de programmation qui cette année s'est donné le défi d'aller un peu parcourir les scènes de Suisse alémanique pour découvrir des musiciens, des musiciennes et puis les ramener sous le chapiteau au mois de septembre.
Sur les 18 artistes que vous programmez pendant ces 3 jours de festival du Petit du Gros, il y en a 7 qui sont soit jurassiens ou neuchâtelois. Châtelois, voir justement cette représentation sur votre scène des artistes de l'arc jurassien. Est-ce que ça vous rassure dans un sens ?
Ça nous rassure, oui, mais c'est quelque chose auquel on tient énormément. Le Petit du Gros, dès le début, sa mission associative, c'est de mettre en avant les musiciens et musiciennes de la région. Donc c'est quelque chose qu'on a voulu garder et mettre au centre de notre ADN depuis maintenant 13 éditions, tout en ouvrant un petit peu aussi à d'autres musiciens qui apportent énormément de professionnalisme aussi. Et puis c'est l'occasion pour des artistes régionaux, peut-être un peu plus amateurs, ou en tout cas au début d'une carrière, d'avoir un contact, par exemple en loge, avec des musiciens, des musiciennes qui sont un petit peu plus avancés dans leur carrière musicale.
Des propos recueillis par Nicolas Meusy. Le Petit du Gros accueillera les jurassiens noirs et intimistes ainsi que les neuchâtelois Attic Foundation, Pug Impact, Bloom District, Hugo to Hell et C10. Programmation complète à retrouver sur notre site internet. Musique toujours, le groupe de thrash metal suisse Coroner était en tournée outre-Atlantique en mars dernier. Les musiciens ont sillonné pas moins de 8 pays sur la côte est américaine. En 25 jours, le groupe s'est produit pas moins de 22 fois en concert. Le jurassien Diego Rapacchietti, batteur de Coroner, explique la logistique derrière une telle tournée.
Heureusement, ce n'est pas nous les musiciens qui la faisons. Il y a un manager, c'est-à-dire quelqu'un qui met en place la logistique. Après, il y a un tour manager, celui qui subit la logistique du manager. Et c'est une grosse organisation parce qu'il fallait aussi des visas de travail pour nous, parce qu'on ne pouvait pas aller aux États-Unis faire 16 concerts avec un visa de touriste. Donc il fallait des visas de travail et ça, ce n'était pas évident. C'est aussi onéreux. Après, il y a la logistique de booker les billets d'avion pour l'Amérique du Sud, parce qu'aux États-Unis, on avait un tourbus, donc on avait un bus où on pouvait dormir dedans et voyager dedans. En Amérique du Sud, ce n'était pas le cas. Donc c'était des vols, donc il fallait se lever genre à 3h30 du matin pour aller prendre l'avion. Donc on dormait genre en général 1h30 à 2h par nuit.
Et le groupe de Metal Coroner qui fête ses 40 ans cette année sortira un nouvel album en octobre prochain.
RFJ, il est 18h13.
RFJ, sport.
Un feu d'artifice sur le Giro, la 11e étape entre Viareggio et Castelnuovo. Nemonti a tenu toutes ses promesses. Cette étape de montagne a été gagnée en solitaire par l'équatorien Richard Carapaz, qui a devancé de 10 secondes un peloton d'une quinzaine de coureurs, dont les principaux favoris. Le leader de l'équipe Tudor Pro Cycling, Michael Storer, accompagné dans la montagne par le jurassien Yannick Voisard, en a fait partie. Après avoir joué son rôle d'équipier, la Joulo a terminé 104e de l'étape à 25 minutes 29 du vainqueur. Au classement général, le Mexique Isaac Del Toro, deuxième aujourd'hui, conserve la tunique de leader. En football, pas de passe droit pour les nations hôtes. L'Angleterre, l'Irlande, l'Écosse et le Pays de Galles, organisateurs de l'Euro 2028, devront passer par les éliminatoires pour participer à la compétition. C'est ce qu'a annoncé l'UEFA aujourd'hui. 2 places seront cependant garanties pour les nations hôtes qui n'auraient pas validé leur billet. 24 nations participeront à l'Euro 2028, réparties sur 9 sites. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre écoute. Très belle fin de journée.
RFJ Sport.